vieux, mon poste ne marche guère.
Il est usagé.
Nous sommes d'accord pour des radios libres.
Nous sommes d'accord pour des radios libres.
J'emmerde la radio.
Chaque jour de 17h à 5h, vous écoutez RCV sur 99 FM. Reverse.
Auto reverse. Auto.
Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de RCV qui vient de prendre les ondes sur le 99 FM. C'est comme ça tous les jours à partir de 17h, la bascule avec nos amis de RPL. Salut Manu.
Salut Nico, ça y est, l'année est repartie sur un fonctionnement normal. On va refaire des auto-reverse avec le concept habituel, à savoir revisiter un album, ses contemporains, ses héritiers, ses influences.
Voilà, après le best-of de la semaine passée que vous pouvez toujours retrouver sur internet, sur notre audioblog. Et on est avec Claire, salut Claire.
Salut, salut Manu, salut Nico et bon anniversaire à Nico.
Merci.
Je balance en passant.
Eh ben merci beaucoup, je suis très ému par cette attention.
Donc chers auditeurs, chères auditrices, n'hésitez pas à appeler pendant les morceaux, à déclarer votre flamme.
Claire, tu reviens pour la troisième fois maintenant dans Auto-Reverse. Tu deviens une habituée de cette émission et on est bien content. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de Soviet Kitsch, qui est le troisième album de Regina Spektor.
Voilà, donc un album sorti en 2004. On peut peut-être commencer tout de suite par le premier morceau. Et
qui va nous introduire à la musique de cette brillante touche-à-tout un peu...
Anti-folk.
Anti-folk, ouais, il y aura plein d'autres adjectifs qu'on va pouvoir utiliser pour cette chanteuse russo-américaine, c'est bien ça.
C'est ça.
Allez, on en parlera après. Ode to Divorce, c'est le premier titre de Regina Spektor aujourd'hui dans Auto-Reverse.
Spare some for spare.
Retour dans les studios pour une émission en direct, comme tous les lundis, Autorivers, aujourd'hui consacré au troisième album de Regina Spektor. On est avec Claire. On va commencer par là, Claire, peut-être un album qu'on connaît ou qu'on a déjà vu par sa pochette un peu exubérante, très, très fleurie, très colorée.
Oui, une photo de Regina Spektor avec un chapeau de...
De l'armée de russe.
Quelque chose comme ça, ouais. Un t-shirt rayé, elle boit une bière ou quelque chose comme ça. Ouais. Oui, c'est très coloré, c'est très gay. Et c'est vrai qu'on le repère
un peu,
assez...
Un peu dépravé.
Oh là là là, on n'aime pas ça, nous. Hein.
Et un titre original pour cet album, Soviet Kitsch, on est en 2004.
Ouais, donc Soviet Kitsch, donc, voilà, comme je disais, c'était son troisième album, mais le premier qui est sorti sur un label, les deux premiers étaient autoproduits, donc c'était le label Sire Records. Elle avait été repérée par Gordon Raphael, qui était le producteur des Strokes, après les deux premiers albums qu'elle avait produits elle-même. Et donc, ce titre, en faisant mes recherches, j'ai découvert en fait que c'était tiré d'une expression de Milan Kundera dans L'insoutenable légèreté de l'être. Et en fait, elle a pas mal de références littéraires dans ses différentes chansons et sur ses albums. Et donc, ce titre-là, ça vient de Kundera. Et en fait, il avait utilisé ce terme pour parler du vide esthétique du communisme staliniste d'après-guerre. Attention. Et donc, en fait, étant donné qu'elle est d'origine russe, on comprend ce genre de référence où elle se moque un petit peu de cette façon, je pense, du communisme d'après-guerre en Russie, que ses parents ont fui un peu plus que le kitsch soviétique, mais voilà. Donc,
elle a grandi en Russie ou en Union soviétique. Et,
en Russie, oui. À Moscou, carrément.
Et ses parents donc, émigrent vers les États-Unis quand elle là quoi, une dizaine d'années, quelque chose comme ça,
ouais, c'est ça, en 1980. Donc en plus c'était encore plus compliqué pour eux parce que c'est une famille russe juive, donc ils étaient un petit peu persécutés. Donc à l'âge de 9 ans et demi, ils ont décidé de partir. Ils sont passés par différents pays en Europe avant de décider de partir pour les États-Unis au moment de la perestroïka. Et j'ai dit 80, c'est 89.
80, c'est sa naissance,
ouais. Oui, 80, c'est sa naissance. Alors, elle venait d'une famille assez artistique. Son père était photographe et violoniste amateur, et sa mère, prof de musique. Et elle a commencé le piano très tôt. Et ils ont même hésité à partir de Russie parce qu'ils prenaient ses études de piano tellement au sérieux qu'ils ne voulaient pas la faire quitter la Russie en se disant que peut-être elle allait devoir abandonner ses études de piano. C'était quand même, ils prenaient ça très très au sérieux, et elle aussi du coup. Elle avait quand même réussi à obtenir de la musique occidentale, parce que son père arrivait à se procurer des cassettes d'Europe de l'Est, donc elle a quand même trempé dans les Beatles, Queen, les Moody Blues, et bien sûr beaucoup de musique classique. Donc elle, à l'origine, elle était persuadée qu'elle allait devenir pianiste classique, et elle continue à dire qu'elle a été très influencée par Chopin. Donc elle le cite régulièrement dans ses influences, en plus des classiques dont je viens de parler, enfin les classiques plus rock dont je viens de parler.
Et donc tu vas passer un morceau de Queen ou des Beatles.
Tout à fait pas. Donc voilà, vous allez être ravis de savoir que je vous ai sélectionné une petite nocturne de Chopin. Alors ça fait pas beaucoup d'heureux autour de cette table, donc apparemment.
Non, c'est faux. Non, on est
surtout étonné. Tu nous plonges dans un univers nouveau et c'est très très bien.
Oui, et puis on est surtout garant de l'audience de cette émission. Donc on sait que 4 minutes de musique classique sur un réseau rock, on est membre de la Ferra Rock et pas de la Ferra classique. mais néanmoins, on est ouvert à.
On va dire que c'est une audace punk.
Un peu. Mm-hmm.
Bon, après, on peut écouter un petit bout.
Non,
si
non mais on l'écoute en entier.
Oui, on va voir, on va voir. Si disons qu'on...
Si le riff de guitare nous plaît, on continue. Et si nous
par contre, si on a vite compris l'idée...
Voilà, je vous laisse décider.
Une minute supplémentaire n'apporte rien. Ouais. Et on verra.
Voilà, je vous laisse complètement décider. Voilà. Ça je ne dis rien.
Alors cite-nous les références complètes de ce morceau, Claire.
Alors, c'est... Oh mince. Le nocturne... Je sais pas comment ça se dit, ça. Nocturne en mi bémol majeur. Hop, hop.
Opus 9.
Oui, bien sûr. Opus 9, numéro 2. Voilà. J'ai pas la date.
On va chercher ça.
Bon.
Ça s'emballe un peu, Manu.
Ouais.
Dommage.
Bah c'est là, du coup, on a envie de prendre la parole, on a envie de chanter, c'est
ouais,
ça.
Ouais. C'est pas la première fois qu'on parle de Chopin dans cette émission. Tu te rappelles, Manu, de qui en avait parlé il y a pas si longtemps que ça?
Non.
C'était Ray, notre ami Ray Villalobos.
Ah oui. De House of Wolves.
De House of Wolves, qui aussi avait été inspiré par Chopin. Puis même, je pense qu'on a dû le citer aussi à d'autres reprises pour d'autres influences.
Donc il était temps de le passer. Voilà. En fait.
Il fallait que tu viennes. On t'attendait.
Mais on l'avait pas passé.
Et apparemment aussi, Nico, il disait que c'était aussi dans le film de La Boum.
Je me posais la question. Je pense que
apparemment c'est ça le morceau qui sert à emballer Sophie Marceau.
Mais un vague souvenir. Mm-hmm. Mais c'est assez un monde. Faudrait demander à ma petite sœur.
Mais Chopin, ça emballe les filles. Voilà.
C'est vrai.
Pour se le dise. Ouais.
Notez-le. Pécho Chopin. Facile à retenir.
Mm-hmm. Ouais. Faut quand même avoir un piano à disposition.
Ouais. C'est vrai. Bah.
Qui n'a pas de piano à disposition comme Nico?
Non, mais c'est pour ça qu'on a pris toi un harmonica et bon, un ukulélé, des instruments plus facilement transportables pour emballer les filles. On écoute aujourd'hui, on revient sur l'album Soviet Kitsch de Regina Spektor. On parlait justement de la naissance et de l'enfance de Regina Spektor en Russie. Ce serait intéressant peut-être Claire de revenir justement sur le titre de cet album, hein, le Kitsch Soviet. L'expression renvoie pas au Kitsch tel qu'on l'entend aujourd'hui, les nains de jardin et toute une...
Comment ça?
Comment ça, c'est
tu n'aimes pas Ménage Jardin?
Selon Kundera, oui. Je crois que c'est quelque chose d'un peu plus philosophique que ça.
Kundera n'a rien contre tes nains de jardin. Par contre.
Mais Nico, par contre, lui, il a l'air pas trop aimé. Mais ça, on verra ça hors antenne.
Mais effectivement, le kitsch que Kundera évoque dans son livre, je vais vous citer. En tout cas, c'est la traduction de ce que Kundera apparemment a écrit dans L'insoutenable légèreté de l'être.
Oui, parce
pas
que
lu.
Tu ne parles pas le tchèque.
Pas très bien. Et en plus, j'ai pas lu ce bouquin. Donc j'avoue, vous l'avez lu vous?
Moi je l'ai lu, oui.
C'était bien?
Ouais, très bien. Et donc il y a des phrases en allemand dedans, il y a Es muss sein qui revient régulièrement dans...
Et Emmanuel est incroyable, voilà. Tu lui sors ouais. Kundera ouais. Et il te sort une citation sein, en
ouais.
allemand.
Ouais.
Il est incroyable, il est génial.
Sein, ouais. ça doit être un truc comme
exactement.
Ça
exactement, ouais.
Le kitsch par essence est la négation absolue de la merde. Le kitsch exclut de son champ de vision tout ce que l'existence humaine a d'essentiellement inacceptable. Donc, c'est pas du tout la même chose, effectivement, c'est plutôt... voilà, c'est en fait une négation des côtés laids de la vie et une négation de la mort. Et donc, toutes les idéologies du type communisme et même le capitalisme, parce que je pense que c'est un petit peu ça le thème, d'après ce que j'ai lu de l'insoutenable légèreté de l'être, c'est aussi... c'est une critique aussi bien du communisme que du capitalisme, et cette... femme qui arrive en
Teresa,
à l'ouest,
je pense,
Teresa,
de mémoire.
C'est un truc en A, c'est sûr, mm-hmm. mais Teresa, c'est bien, je pense.
Bien, je crois que c'est ça, Teresa, ouais.
Elle, mm-hmm. Elle se rend compte qu'en fait, il y a la même vacuité à l'est qu'à l'ouest, et un kitsch différent, mais un kitsch tout de même.
J'ai pas souvenir qu'elle passe à l'ouest, mais...
Non, c'est peut-être pas Teresa,
alors. Oui, il y a une histoire d'une photographe, c'est peut-être elle,
peut-être.
Elle qui...
Oui, une photographe voilà, qui fait des expos, ouais.
Ouais. Mm-hmm. Mais c'est pas elle la personnage principale.
En tout cas, Regina Spektor, elle, passe à l'ouest en 89, hein, comme tu le disais mm-hmm. tout à l'heure. Alors justement, qu'est-ce qui se passe? Elle continue à ses études de piano, sa formation oui. musicale, et en même temps, là, elle se noie dans le New York musical, ou du moins, elle va écouter d'autres influences. Hein.
Voilà, donc ils sont établis dans le Bronx et elle a réussi à trouver un piano dans le sous-sol d'une synagogue et une prof de piano très très bien. Et elle continue à prendre des cours de piano jusqu'à ses 17 ans. Et donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Elle continue à vouloir devenir pianiste classique. Parce qu'en fait, elle n'imagine pas créer ses propres airs parce que c'est les maîtres, voilà, comme Chopin, les autres, elle les trouve tellement merveilleux qu'elle s'imagine pas pouvoir un jour créer elle-même des airs. Mais ça n'empêche pas qu'elle peut pas. Elle est sans arrêt en train de chantonner des chansons qu'elle invente, de créer des airs quand même, même si elle se dit qu'elle en est pas capable. Et quand elle découvre des artistes du type Joni Mitchell ou Annie DiFranco, des femmes qui ont, elles, écrit leurs propres chansons, elle se dit que, en fait, pourquoi pas, tout le monde lui dit qu'elle a vraiment un don pour ça, donc elle décide qu'elle va s'y mettre. Donc, c'est pour ça que je vous propose d'écouter Joni Mitchell, A Case of You, de 1971, qui a donc été une de ses influences aussi.
Nord-américaine, elle
voilà.
est...
Voilà.
Before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness, where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, you TV screen light. I drew a map of Canada. Oh, Canada. With your face sketched on it twice. I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paint. I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time you told me, you said, love is touching souls. Surely you touch mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time. She said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. Oh, but you are in my blood, you're my holy wine, you're so bitter, bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you.
Den of thieves is gonna den of thieves, rummaging for answers in the pages. Den of thieves is contagious, and it's contagious, it's contagious.
On vient d'écouter deux titres enchaînés. D'abord Joni Mitchell en 1971. Donc là, c'était au registre des influences que Regina Spektor découvre de l'autre côté de l'Atlantique quand elle émigre là-bas à la fin des années 80. Et puis, juste à l'instant, c'était donc un second extrait de son album qu'on revisite aujourd'hui, Soviet Kitsch, en 2004. La chanson qui s'appelle Us. Et Manu, un des titres que tu préfères dans cet album?
Bah, même celui que je préfère, je pense, mais osons.
Oula, Claire,
vraiment un super morceau, je trouve.
Voilà, il y a un peu toute la patte, enfin, le style de Regina Spektor qu'on reconnaît dans ce titre, bon, le piano et puis la voix utilisée comme un instrument aussi.
Voilà. Et le registre vocal très étendu aussi. Ouais, le piano assez simple, c'est toujours ça qui est. Moins dans les derniers albums, mais dans cet album-là encore, un piano assez brut que je trouve très, très touchant. Peut-être pour ça que je suis moins fan des albums suivants, je crois. Mais en tout cas, dans celui-là, je trouve que ça reste très pur.
Ouais, et justement, c'est un peu justement épuré des touches qu'il y a parfois dans certains de ses titres, un peu. Comment dire, une patte un peu fofolle, beaucoup d'humour.
Oui.
Là, ce morceau, comme tu l'as dit, il est brut, c'est vrai qu'il est assez touchant. Parfois, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un peu une surcharge de non, mais d'ironie, d'humour, de fantaisie.
Deux titres qu'on va voir après, ils sont beaucoup plus. Voilà, il y a beaucoup plus d'ironie et d'humour. Et c'est des styles encore différents. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve aussi. Les styles des chansons sont très différents. Enfin, je trouve en tout cas. D'une chanson sur l'autre, on change vraiment de style. Mais on retrouve toujours, comme vous dites, le piano assez simple, souvent le registre vocal, et puis la voix comme instrument. Et ça, on la retrouve un petit peu à la fin, là, avec ces ouh, ouh,
ouais.
Que je n'essaierai même pas d'imiter.
Oh,
mais.
Si.
Non, vraiment.
C'est vous, comme tu dis, qui la font appartenir à une sous-catégorie de la pop, musique pop contemporaine, celle des chanteuses à voix.
Voilà, c'est ça. Donc on la compare souvent avec d'autres chanteuses à voix. Donc on parle souvent de PJ Harvey, Cat Power, Fiona Apple et Tori Amos. Et moi, je trouve surtout une ressemblance avec Tori Amos. Il y en a beaucoup qui vont dire que non, mais bon, voilà. Moi, je trouve, en plus, même physiquement, je trouve qu'elles ont quelque chose de frais, à part la couleur des cheveux, mais sinon, je trouve qu'elles se ressemblent un petit peu. Et quand on les voit sur scène avec leur piano, elles ont toutes les deux cette passion. Enfin, c'est vraiment. On sent la même passion dans ces deux femmes. Et bon, pareil, le registre vocal, Tori Amos, c'est pareil. Et. Bon, peut-être un peu moins l'utilisation de la voix comme un instrument pour Tori Amos, mais tout de même. Je trouve qu'il y a des grosses. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a des grosses ressemblances quand même.
Le mieux, c'est peut-être d'écouter, non ?
Eh bien, écoutons. Pretty Good Year.
Donc, sur son album Under the Pink en 1994.
Voilà, de Tori Amos.
Tears on the sleeve of a man. Don't wanna be a boy today. Heard the eternal voice. Goodman bought himself a bike to race. And Greggy writes letters and burns his CDs. They say you are something in those formative years. We'll hold on to nothing as fast as you can.
C'était Tori Amos, Pretty Good Year.
Tori Amos qui n'est pas du tout un second couteau de l'industrie musicale. On a été surpris en regardant ça hors antenne, Manu, les ventes phénoménales de cet artiste.
Oui, notamment aux États-Unis où ses albums ont régulièrement été classés parmi les 10 meilleures ventes de l'année. Elle est double disque de platine régulièrement. Et c'est vrai que vu de France, on imaginait un succès confidentiel et... outre-Atlantique, mais aussi outre-Manche, ça a visiblement très très bien marché sur le plan commercial.
Ouais, elle est connue ici, elle vend un petit peu, mais on pensait pas que c'était aussi important que cela.
Oui, c'est étrange qu'elle soit pas plus connue ici d'ailleurs.
Alors en France, son meilleur classement, ça a été 26e dans les ventes.
Oui,
ce
mais
qui n'est pas rien quand même. Mais,
ouais, non, mais en fait, elle se place sur un créneau qui est quand même très pris en France et pour laquelle la concurrence est quand même féroce. Les chanteuses à voix françaises ou francophones, c'est quand même une spécialité. C'est un made in France.
Bah oui.
Avec
ou
un
made in Canada aussi.
Oui, 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 j'étais en train de penser
le
à
Québec,
ça.
Quand même,
mais avec un avantage compétitif de la France assez énorme. Pourquoi aller chercher aux États-Unis ce qu'on fait très bien ici ou dans chez nos cousins québécois.
Des noms.
En tout cas, des émissions sont en préparation sur
cette scène.
Sujet. Ouais. En parlant de scène, Claire. Il y a une scène, donc la scène new-yorkaise, où justement, après avoir été incité à se produire et à faire ses propres compositions, Regina Spektor a petit à petit percé. Alors une scène un peu spécifique, puisqu'on parlait d'ironie tout à l'heure, c'est aussi une scène assez qui se moque beaucoup d'elle-même,
oui.
Avec une certaine distanciation. C'est la scène anti-folk que tu as évoquée au tout début de l'émission.
Et donc c'est un petit peu difficile à définir, parce que c'est un petit peu tous les gens qui se reconnaissent pas dans le folk, qui se disent anti-folk. Et c'est assez, mais de façon générale, c'est assez brut et expérimental. Et ils ont tendance effectivement à avoir pas mal d'humour et à se moquer à la fois du folk et d'eux-mêmes, et de la prétention de la musique plus mainstream. Et donc ça a été commencé par des artistes qui n'arrivaient pas à trouver des dates dans les salles folk de Greenwich Village. Et un de ces artistes, dont je ne sais plus le nom, a décidé d'ouvrir une salle qui s'appelait The Fort au moment du New York Folk Festival. Et il a du coup organisé en compétition le New York Anti-Folk Festival, et qui continue, lui, à avoir lieu tous les ans, alors que le New York Folk Festival n'a pas duré très longtemps. Donc, ils ont survécu plus longtemps. Et donc, il y a eu différents artistes qui ont fait partie de ce mouvement. Bon, c'est pas des noms, à part, bon, il y a Beck qui est connu, mais sinon Brenda Khan, Kirk Kelly, moins connu. Et donc, Regina Spektor, qui s'est beaucoup produite donc, sur cette scène, où elle se retrouvait bien là-dedans. Et dans un endroit en particulier qui s'appelle le Sidewalk Café, qui en fait a remplacé The Fort qui avait fermé. Donc voilà, la scène anti-folk à New York, c'est le Sidewalk Café. Et dans l'East Village, et elle y jouait souvent avec le batteur Anders Griffin, qui a joué avec pas mal de gens de ce milieu-là aussi. Et alors, à force de traîner avec tous ces gens-là, elle a fini par épouser Jack Dischel, qui est le guitariste des Moldy Peaches, qui fait aussi partie de la scène anti-folk. Et elle a aussi souvent joué avec Kimia Dawson, qui est avec Adam Green, qui fait partie des Moldy Peaches.
Des noms qu'on connaît peut-être un petit peu mieux.
Adam Green et Kimia Dawson, ouais. Ils ont percé tous les deux de leur côté. Enfin, percé.
Oui, si, si.
Puis dans une certaine mesure.
Ils se sont souvent produits de ce côté-ci aussi.
Oui,
à
quand
Lille,
même.
On les a vus.
À Lille, c'est vrai.
Ouais. Ah, oui. Moi, je les ai déjà vus à la Malterie.
À la Malterie
plusieurs fois, ouais, ouais.
Ah, ouais, d'accord.
Sûrement des scènes anti-folk
c'est
avec.
Assez intime. Voilà.
Jeffrey Lewis.
Jeffrey Lewis. Mm-hmm.
Oui, voilà, lui aussi.
C'est le nom auquel anti-folk. Je pense en premier, ouais. Ouais, quand on parle d'anti-folk.
Mm-hmm. Je crois qu'Adam Green continue à faire des choses et je me demande, Manu, s'il n'est pas dans une des compiles que nous avons reçues ce week-end, un morceau. Mm-hmm. Totalement non anti-folk, quelque chose de très produit et
d'accord.
Donc on va vérifier ça, mais c'est intéressant. Et donc on va écouter un petit morceau des Moldy Peaches, un super album. Je crois qu'ils en ont fait qu'un seul, mais c'est un album bourré de tubes, un disque que j'aime
ouais,
beaucoup.
C'est très drôle cet album, c'est très touchant. Et en plus cette chanson-là en particulier, bon, il y en a eu d'autres, hein, je crois, mais dans Juno, le film là qui a été très mm-hmm. très connue, donc celle-là, en plus, elle était dans ce film, donc je crois que ça a aidé.
Cool. Oui. Le morceau s'appelle
Anyone Else But You.
You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else but
you. I kiss you on the brain in the shadow of the train. Kiss you all starry-eyed, my body swinging from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else but
here is the church and here is the steeple. We sure are cute for two ugly people. I don't see what anyone can see in anyone else but
you. The pebbles forgive me, the trees forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone could see in anyone else but you.
I will find my niche in your car with my MP3 DVD rumble pack guitar. I don't see what anyone can see in anyone else but up, up, down, down, left, right, left, right, B, A, start. Just because we use cheats doesn't mean we're not smart. I don't see what anyone can see in anyone else but you.
You are always trying to keep it real. I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see in anyone else fight.
We both have shiny happy fits of rage. You want more fans, I want more stage. I don't see what anyone can see in anyone else but
Don Quixote was a steel driving man. My name is Adam, I'm your biggest fan. I don't see what anyone can see in anyone else but you.
Squinched up your face and did a dance. Shook a little turd out of the bottom of your pants. I don't see what anyone can see in anyone else but you.
But you.
Anyone else but you, c'était les Moldy Peaches il y a déjà 13 ans, en 2001. Vous écoutez bien RCV sur le 99FM, également sur internet rcv-lille.com. Autoriverse aujourd'hui consacré au troisième album de Regina Spektor, l'album s'appelle Soviet Sketch, et donc on évoquait la scène anti-folk dans laquelle cet artiste s'est placé. On évoquait tout à l'heure, Claire, les paroles, enfin l'ironie de l'artiste, et ça se retrouve pas mal dans ses textes aussi, très très fantaisistes, très imaginaires, très originaux souvent.
Oui, elle doit avoir une imagination assez bizarre, parce que les personnages dans ces chansons sont vraiment rigolos, intéressants, et à chaque fois ça raconte un petit scénario, enfin ça décrit un personnage qui lui arrive. Donc ben là on va avoir deux autres chansons qui sont beaucoup plus rythmées et rigolotes que les deux premières qu'on a écoutées, et qui donc la première c'est Poor Little Rich Boy, donc on reviendra un petit peu dessus après, mais qui se moque un petit peu d'un garçon qui est riche et qui n'aime pas sa copine, qui s'ennuie, donc c'est du typique Regina Spektor aussi, celle-là. Et en plus on retrouve aussi un petit peu sur celle-là, si je ne m'abuse, quelque chose qui est assez typique qu'elle fait aussi, c'est l'utilisation de la on dit une baguette de batterie, on dit comment, une,
ouais.
Une baguette de batterie sur par exemple le côté de son piano, quelque chose comme ça, pour taper le rythme.
D'accord.
Donc c'est quelque chose qu'elle fait pas mal aussi.
On entend ça dans le morceau que tu as passé.
Il me semble, je pense, je suis quasiment sûre.
Bon, on va vérifier.
On va voir ça.
Poor Little Rich Boy.
Oops.
Soyez vigilants, vigilantes, écoutez ce bruit étrange.
Au début. Voilà. Ouf.
Poor little rich boy, all the couples have gone. You wish that they hadn't, you don't want to be alone. But they want to kiss, and they got homes of their own. Poor little rich boy, all the couples have gone. And you don't love your girlfriend, you don't love your girlfriend. And you think that you should, but you think that she's bad, but she's some, she don't love her anyway. And you don't love your mother, and you know that you should, and you wish that you would, but you don't anyway. Poor little rich boy, ah, the world is okay. The water runs off your skin and down into the drain. You're reading Fitzgerald, you're reading Hemingway. They're both super smart and drinking in the cafe. But you don't love your girlfriend, you don't love your girlfriend. And you think that you should, but you think that you're fat, but she's not, you don't love her anyway. And you don't love your mother, you know that you should. And you wish that you would, but you don't anyway. You're so young, you're so goddamn young. You're so young, you're so goddamn young. You're so young, you're so goddamn young. You're so goddamn young, you're so goddamn young. You're so young, you're so goddamn young. You're so young, you're so
so goddamn young, you're 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 so goddamn young, you don't love your girlfriend, and you don't love your girlfriend, and you don't love your girlfriend, and you don't love your girlfriend.
Pour Little Rich Boy de Regina Spektor, un des titres de l'album, Claire, où on, voilà, on retrouve un peu le plus cette patte un peu excentrique,
humoristique
et cette fameuse baguette.
Il y avait la baguette. Ouf.
D'ailleurs, si vous avez des pianos, ne faites pas ça, ça risque de leur porter atteinte.
Oui. Sinon, elle fait ça sur les chaises aussi, apparemment, donc pas que sur les pianos.
C'est vrai que tu ruines le vernis de ton piano avec un coup de baguette.
Les parents qui se saignent pour acheter un instrument à leur gamin et hop.
Sans compter le prix des cours.
Hein, ouais.
On en parle trop peu.
Et c'est un drame. Et résultat, le gamin, il te fout en l'air
le bordel.
Le côté.
Bravo, Otto Rivers, merci.
Du piano. Hein. Merci, Regina Spektor, surtout. Merci à elle.
Donc, surtout, ne faites pas ça. Sur une chaise, ça marche très bien aussi.
Bon. Pourtant, Regina est quand même plein de bonnes intentions. Dans ce titre, elle a plein de références littéraires. Donc, elle veut quand même amener un certain public à la littérature, mm-hmm. à la grande littérature américaine. Mm-hmm. Mais Reza, elle donne des mauvaises idées. Elle parle de Hemingway et de Francis Scott Fitzgerald sur ce titre, c'est ça, hein?
Oui. Les cite dans la chanson, d'ailleurs. Elle dit « You're reading Fitzgerald, you're reading Hemingway ». Et en fait, le titre, c'est une référence, encore une fois, littéraire. Donc, c'est vraiment une grande intellectuelle, cette Regina. Et donc, elle fait référence à une nouvelle de Fitzgerald qui s'appelait The Rich Boy, qui avait entraîné une petite querelle entre les deux auteurs, parce qu'en fait Hemingway se moquait de la fascination de Fitzgerald pour les riches, parce qu'en fait il était tout le temps sur la paille. Et donc en réponse à cette nouvelle, Hemingway avait écrit une nouvelle qui s'appelait Les Neiges du Kilimandjaro, où il avait écrit Poor Fitzgerald, qui trouve que les riches sont si merveilleux. Et donc forcément, Fitzgerald avait été un petit peu touché par, par cette petite pique. Donc voilà. Et sinon, en matière de références littéraires, il y en a pas mal. Et même du français, elle a écrit une chanson qui s'appelle Baobab, en référence au Petit Prince aussi. Voilà. C'était pour finir sur les références littéraires.
Écoutez, on va aborder dans les quelques minutes qu'il nous reste la question de l'héritage, ou tout du moins d'autres artistes qui se seraient inspirés de Regina Spektor, ou du moins qui se situent dans la même veine. Il y en a quelques-uns quand même qui on avait pensé à une artiste française, Camille un petit peu, qui est dans ce registre-là, non?
Oui, Camille, dans le même genre, assez épurée, et qui joue pas mal avec la voix aussi, donc effectivement ça, en France, ça paraît être ce qu'il y a de plus proche, dans ce que je connais en tout cas. Sinon, je pensais donc aussi à Kate Nash et Lily Allen, mais surtout Kate Nash, qui d'ailleurs en plus le dit ouvertement. Elle dit qu'elle est tombée amoureuse de Regina Spektor quand elle avait 16 ou 17 ans. Mm-hmm. Donc voilà. et en écoutant un petit peu, je suis tombée sur une chanson, c'est, on dirait, complètement du Regina Spektor. Donc il s'agit de Little Red. De l'album Made of Bricks de 2007.
Everybody took everything that they could, and they made a little town out of stones and out of wood. A little king out of plasticine, and they threw the rules away, but they kept the wisdom in. And all of the birds and the bees lived so peacefully. And all of the babies, they slept so gently, until little red, little red, little red, little red.
Kate Nash. Et là, Claire, tu viens de gagner un des prix du concours du plus bel héritage, puisque vous voir de l'influence très, très marquée.
Quand même, hein, ouais.
Parce que là, on peut pas dire le contraire.
Mm-hmm. Bon, elles sont pas toutes comme ça, hein, ces chansons-là. J'ai vraiment choisi celles qui étaient vraiment très, très, très inspirées. Sinon, bon, là, vous connaissez pas trop, mais si vous écoutez d'autres, vous verrez que c'est pas toujours comme ça. Mais bon, là, clairement, celle-là, c'était spéciale dédicace Regina Spektor.
Et que devient Regina Spektor depuis cet album de 2004,
hein? Regina va bien, merci beaucoup. Elle continue à faire beaucoup d'albums. Elle a encore sorti un album. Que je sais pas de bêtises, en 2012 j'avais mis sur ma compile, c'était Phare, et alors je continue à beaucoup aimer, mais ça, comme je disais, ça, il y a quand même plus d'instrumentation, plus d'arrangements musicaux, c'est moins brut, c'est moins anti-folk, mais bon, comme vous disiez aussi, enfin Dame Green, c'est pareil, il prend la même direction, enfin c'est comme ça, au fur et à mesure, quand ils sont de plus en plus connus, ils font des choses moins brut. Et
puis 10 années ont passé et nous-mêmes avons changé.
Oui, oui, pas, oui, mais bon, je trouve ça tellement joli. Et sinon, voilà, elle devient quand même assez connue. Sa musique a été utilisée pas mal. Ça m'arrive régulièrement d'entendre sa musique dans des programmes télé ou des pubs. Donc là, par exemple, il y avait eu dans Grey's Anatomy, dans How I Met Your Mother, et dans des films hollywoodiens, il y avait Narnia, Ma vie pour la tienne, etc. Donc ça va pour elle. Et d'ailleurs, déjà à l'époque, Soviet Kitsch avait été inclus par NME dans la liste des 100 meilleurs albums de la décennie. Donc c'est...
Rien que ça.
C'est déjà pas mal. Mais voilà, donc elle va très bien.
Bon.
Bon, en tout cas, merci de nous avoir refait écouter cet album. Moi, je ne l'avais pas réécouté depuis très longtemps et c'est vrai que c'est plutôt agréable. Merci Claire de nous avoir conté l'inénarrable vie de Regina Spektor.
Et Kundera.
Et de Kundera.
Et de Fitzgerald, ouais. Et de Hemingway,
et
etc.
Voilà.
Et de Frédéric Chopin.
Ouais.
Bien sûr.
Transition toute trouvée. On va laisser la place à Schnaps, grand amateur devant l'éternel de Chopin. Ah, il veut venir dire un duo, évidemment.
Bonsoir, auditrice, auditeur. Bah, écoute, pour ma part, je serais plutôt encore plus classique. Ça serait, moi, ce que les morceaux que je préfère, c'est peut-être le Requiem de Mozart.
Ah, d'accord. Que,
de Mozart. Mozart, c'est le copain de.
De Maurice.
Ouais, Maurice Mozart.